France Culture, il est 12h30. Tout de suite le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Invraisemblance, incohérence, contradiction, voire mensonge, quand la commission des lois du Sénat présente depuis ce matin son rapport d'enquête sur l'affaire Benalla, du nom de l'ex-chargé de mission de l'Élysée, soupçonné d'avoir menti sous serment, lequel a été placé qui plus est la veille derrière les barreaux.
L'Académie française a fait part ce matin de son indignation après les attaques antisémites à l'encontre de deux de ses membres, Simone Veil et Alain Finkielkraut.
Et quant à l'homme soupçonné d'avoir proféré des injures antisémites à l'encontre du philosophe français, il a été placé hier soir en garde à vue.
Dans votre journal également, au pouvoir depuis 2010, le Premier ministre hongrois n'en est pas à son premier bras de fer avec les instances européennes.
Oui, sauf qu'à 3 mois des élections européennes, la nouvelle campagne de dénigrement lancée cette semaine par Viktor Orban à l'encontre du président de la Commission suscite la colère à Bruxelles. Après le Pakistan, le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman est en visite aujourd'hui en Inde, et ce alors même que les tensions indo-pakistanaises se sont exacerbées ces derniers jours autour de la question controversée du Cachemire. Enfin, c'est le nouveau rendez-vous de la rédaction depuis le début de l'année, une fois par mois. Nous vous proposons de nous arrêter sur un sujet touchant à l'actualité environnementale aujourd'hui, direction l'île de la Réunion qui, en 2030, devra être en totale autonomie énergétique. Puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alstom, Airbus, Total, pour ne citer qu'elles, des entreprises françaises en phase de déstabilisation par une stratégie offensive des États-Unis. C'est la nouvelle guerre économique que nous décrit le politologue Ali Laïdi, il est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Le droit, nouvelle arme de guerre économique » chez Actes Sud.
Merci, à tout à l'heure. Affaire d'été ou affaire d'État, seule certitude pour l'instant, l'affaire Benalla qui, de l'aveu même du chef de l'État en juillet dernier, ne représentait guère plus qu'une simple tempête dans un verre d'eau, aura fini par vagues successives à inonder la planète politico-médiatique au point que personne ne s'avancerait désormais à prédire quand cessera la dite tempête. Alors hier soir, tout d'abord, énième épisode judiciaire de ce feuilleton tentaculaire, l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron, de même que Vincent Crass, ancien employé de La République En Marche, ont tous deux été placé en détention provisoire pour ne pas avoir respecté le contrôle judiciaire qui leur était imposé dans le cadre de l'enquête sur les violences du 1er mai, place de la Contrescarpe à Paris. Et puis ce matin, quelques heures à peine donc, après ce qui apparaissait comme l'ultime rebondissement spectaculaire dans ce dossier, voilà que les sénateurs de la commission d'enquête présentaient, eux, leur rapport sur ce dossier pour le moins sensible. Stéphane Robert, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes au Sénat, où les conclusions donc de cette enquête menée par les sénateurs viennent d'être rendues publiques. À la première question de savoir si Alexandre Benalla a ou non menti devant ses questionneurs, alors même qu'il était sous serment, la commission a-t-elle tranché ?
Oui, la commission d'enquête sénatoriale préconise la saisine de la justice à l'encontre d'Alexandre Benalla pour faux témoignage. C'est notamment pour ses déclarations faites le 21 janvier dernier, lors de sa deuxième audition, qu'il est mis en cause pour n'avoir pas dit la vérité, et ça alors qu'il était entendu sous serment. Et cette mise en cause pour faux témoignage concerne essentiellement l'affaire dite des contrats russes, signés pour la protection de l'oligarque Iskander Makhmoudov, dont on suppose qu'il a des liens avec la mafia. Au vu des dernières révélations, selon les sénateurs, il apparaît qu'Alexandre Benalla était bien impliqué dans la négociation et la signature de ces contrats, et ça alors qu'il était encore en poste à l'Élysée, ce qui dénote un certain nombre de dysfonctionnements. Les dénégations de Benalla le 21 janvier dernier conduisent dès lors les sénateurs à demander au bureau du Sénat de saisir la justice.
Alors on le voit, 7 mois après avoir été révélé, cette affaire aura non seulement survécu bien après la rentrée, s'agissant du dossier judiciaire personnel d'Alexandre Benalla, mais elle aura aussi très vite pris une tournure politique, en l'occurrence, et sans le mettre directement en cause, ces développements se sont révélés pour le moins embarrassants pour l'Élysée. Or c'était justement l'objectif, par ailleurs, de cette commission que d'enquêter sur les possibles dysfonctionnements des services de l'État dans cette affaire. À ce titre, Stéphane, des personnalités du cercle restreint de l'Élysée sont-elles aujourd'hui visées ?
Alors, la commission d'enquête sénatoriale relève de très nombreux dysfonctionnements des services de l'État dans cette affaire, et en particulier des services de l'Élysée. Il n'y a pas vraiment eu de sanctions prises au lendemain des événements de la place de la Contrescarpe le 1er mai, c'est-à-dire le jour où Alexandre Benalla a molesté des manifestants, disent les sénateurs. Au contraire, l'Élysée lui a maintenu sa confiance. Dysfonctionnement également dans l'attribution des passeports dont Alexandre Benalla a bénéficié. Je vous rappelle qu'il a disposé de 4 passeports, dont 2 passeports diplomatique, et dans le fait que les démarches pour les récupérer n'ont pas réellement été effectuées, mais surtout, ce que pointent les sénateurs, contrairement à ce qu'ont déclaré le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Keller, à ce qu'a déclaré également le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stotta, et à ce qu'a déclaré le patron du GSPR, le groupement de gendarmerie chargé de la protection du président de la République, il apparaît, disent les sénateurs, que Benalla a été bel et bien chargé de la protection, d'une protection rapprochée du président de la République. Et donc ça, ça pose un véritable problème de dysfonctionnement. Alors le Sénat, les sénateurs ne préconisent pas la saisine de la justice pour ces trois personnes que je viens de citer, mais les sénateurs indiquent qu'ils vont transmettre à la justice l'ensemble du rapport et le procureur appréciera lui-même s'il y a lieu d'effectuer, de lancer d'autres poursuites.
Merci Stéphane Robert en direct du Sénat ainsi qu'à Yves Lehors pour les moyens techniques. Comment en sortir et prévenir de futures dérives en cette période où se télescope abomination verbiale et convulsion sociale? Les rassemblements organisés hier soir dans toute la France contre l'antisémitisme devaient témoigner d'un sursaut national et républicain face à la passivité souvent observée devant les vociférations haineuses. Mais parce que les dizaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue ne suffiront probablement pas à faire reculer l'antisémitisme, l'exécutif a confirmé sa volonté de durcir l'arsenal législatif avec notamment les règles imposées aux réseaux sociaux. Au dîner du CRIF ce soir, Emmanuel Macron pourrait ainsi annoncer la création d'une loi qui engagerait la responsabilité des plateformes sur les contenus antisémites et racistes sur Internet. Et puis s'agissant plus particulièrement cette fois-ci de la pluie d'insultes antisémites adressées samedi dernier à l'écrivain et académicien Alain Finkielkraut en marge d'un rassemblement de gilets jaunes à Paris, l'homme soupçonné d'avoir proféré ces injures a été placé hier en garde à vue. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Sait-on qui il est?
Alors d'abord, il a été identifié à partir de la vidéo où on le voit très distinctement en première ligne, barbe rousse, gilet jaune et keffiyeh autour du cou, proférer de violentes insultes contre Alain Finkielkraut. Tu es un haineux, tu vas mourir, aller en enfer, sale sioniste. Il a répondu en fait à la convocation de la police et s'est présenté de lui-même hier soir au commissariat de Mulhouse où il a été placé en garde à vue pour être entendu par la brigade de répression de la délinquance à la personne chargée de l'enquête ouverte par le parquet de Paris. Il s'agit d'un père de famille de 5 enfants âgé de 36 ans qui a fondé la boutique de téléphonie mobile pour laquelle il travaille à Mulhouse. Il a participé à plusieurs actions des gilets jaunes, non seulement à Kingersheim dans la banlieue de Mulhouse mais aussi à Paris. Sur son profil Facebook, il a posté le 31 décembre une vidéo des Champs-Élysées, relayée aussi plusieurs informations d'inspiration complotiste. Ce matin, sur l'antenne de France Inter, Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, a évoqué de manière quelque peu elliptique un homme qui a manifestement une forme de radicalisation. Cela dit, il n'est pas fiché S, ne figurerait pas non plus sur les listes du FSPRT, le fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Converti à l'islam, il a participé en 2014 à un voyage humanitaire organisé par l'association des Palestiniens de Mulhouse dans les camps de réfugiés du Sud-Liban, mais sans avoir adhéré à l'association. On ne l'a jamais revu depuis, précise l'une de ses membres, visiblement soucieuse d'éviter tout éventuel amalgame. Il n'est pas le seul, rappelons-le, à avoir proféré ces injures, comme en témoignent les vidéos, et l'enquête se poursuit pour identifier les autres suspects.
Merci Florence Thurm. Mission impossible en vue aujourd'hui au MEDEF où patronat et syndicats tenteront une ultime fois de rapprocher leur vue sur la réforme de l'assurance chômage voulue par l'exécutif, lequel en cas d'échec sera libre de rédiger son propre projet. Il y a fort à parier en effet que la réunion convoquée cet après-midi sera surtout destinée à déterminer qui portera in fine la responsabilité de la faillite de ces 3 mois et demi de négociations. Rappelons que les partenaires sociaux butent encore et toujours sur l'instauration d'un bonus-malus pour décourager les entreprises de recourir aux contrats courts. Ce dispositif réclamé par les syndicats, fort des engagements d'Emmanuel Macron en ce sens, est aujourd'hui catégoriquement rejeté par le patronat. La Grande-Bretagne a jusqu'à la mi-mars au plus tard pour parvenir à conclure avec l'Union européenne un accord sur le Brexit qui puisse être approuvé lors du Conseil européen des 21 et 22 mars. Déclaration ce matin d'un diplomate européen lequel ajoute, à défaut de trouver un accord, le gouvernement britannique devra soit reporter la date de sa sortie de l'UE, soit quitter le bloc communautaire sans accord. Autant dire qu'il eût été plus difficile de mettre davantage la pression sur les épaules de la première ministre britannique Theresa May, laquelle se rend aujourd'hui à Bruxelles. Enfin, last but not least, 3 députés ont annoncé ce matin leur démission du Parti conservateur. Vous avez aussi le droit de savoir ce que Bruxelles prépare. Ce slogan surplombé du visage ricanant de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, associé à celui du milliardaire et philanthrope américain George Soros, bouc émissaire des nationalistes hongrois, fait partie de la nouvelle campagne du gouvernement de Viktor Orban accusant Bruxelles de soutenir l'immigration. André Tison, bonjour.
Bonjour.
Alors ce n'est pas là la première campagne anti-Bruxelles choquante lancée par le gouvernement hongrois. En revanche, elle vient remettre sur la table une question déjà maintes fois posée. Jusqu'à quand le PPE, cette grande famille des droites européennes actuellement majoritaire au Parlement de Strasbourg, va-t-elle accepter la présence en son sein du chantre de l'illibéralisme Viktor Orban.
Il n'y a pas de ressemblance entre M. Orban et moi, sa place n'est pas dans le PPE. Voilà la réponse sobre mais radicale de Jean-Claude Juncker, interrogé lors d'une réunion publique. Il est le premier à appeler officiellement à écarter le parti hongrois Fidesz. 11 eurodéputés siègent dans les rangs du Parti populaire européen. Le président de ce parti, Joseph Daul, va moins loin. Il condamne fermement cette campagne. Au lieu de montrer Bruxelles comme un ennemi, la Hongrie doit réaliser qu'elle fait partie de l'Union européenne. Interrogé il y a quelques jours, avant cette énième provocation, un eurodéputé français très en vue se montrait un peu gêné, déclarant que les membres du Fidesz sont certes une douzaine dans le groupe, mais ce n'est pas eux qui font la loi. Tout ne tourne pas autour d'Orban. Sauf que cette fois, le populiste hongrois passe un cap. Pour accompagner cette affiche montrant Juncker et Soros, il y a un texte. Ils veulent instaurer le quota de réinstallation obligatoire des migrants, affaiblir les droits des États membres à défendre leurs frontières, faciliter l'immigration. Un fox, répond le porte-parole de la Commission européenne, Margaritis Schinas.
The Hungarian government campaign is shocking. There is no conspiracy.
La campagne du gouvernement hongrois est choquante. Il n'y a pas de conspiration. Les Hongrois méritent des faits, pas de fiction. Et il rajoute que l'appartenance à une famille politique présuppose le respect de principes qui gouvernent cette famille. Le parti d'Orban ne sera donc peut-être pas exclu immédiatement du PPE, mais on voit mal comment l'Alliance pourra survivre aux prochaines élections en mai.
Merci Audrey Tison. Une pension complémentaire pour fidélité, loyauté et obéissance. Voilà ce qu'Adolf Hitler avait lui-même garanti en 1941 à des dizaines de milliers de personnes, des habitants des cantons de l'Est et d'Alsace qui avaient acquis la nationalité allemande après l'invasion nazie, mais aussi des Belges qui avaient rejoint les Waffen-SS pendant la guerre. Or voilà que 75 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on apprend que 27 Belges toucheraient encore une pension complémentaire de Berlin pour avoir collaboré au régime nazi. Une aberration à laquelle plusieurs députés belges ont décidé de mettre un terme en s'attaquant d'urgence à ce problème par la voie diplomatique. Les précisions à Bruxelles de Johanna Hochstein.
Le décret date de 1941, a été signé par Adolf Hitler et est toujours d'application aujourd'hui. Il prévoit d'accorder une pension aux collaborateurs militaires du régime nazi en cas d'invalidité partielle ou totale à l'issue de la guerre. Une pension dont le montant varie en fonction du nombre d'années passées en prison pour des faits de collaboration, des années considérées comme des années de travail pour l'Allemagne. En Belgique, sur les 80 000 personnes jugées coupables de collaboration avec le régime nazi, 38 000 ont bénéficié de cette pension de guerre. Aujourd'hui, une trentaine d'anciens SS ou leurs ayants droit sont toujours concernés. Une pension dont le montant varie entre 425 et 1275 euros. Le président de l'association Mémoire, qui regroupe des rescapés de la Shoah, décédé aujourd'hui, dénonçait l'an dernier cet héritage nazi, Peter Paul Batten.
Ce n'est pas tout seulement pour nous déportés une question de pension. C'est une question que ceux qui sont allés se battre avec la Waffen-SS, ils doivent être punis.
Des parlementaires belges viennent d'adopter une résolution pour demander l'abrogation de ce régime de pension. Des pensions qui, dénoncent-ils, n'ont jamais été taxées par l'État belge, puisque l'Allemagne s'est refusée jusqu'ici à révéler l'identité des bénéficiaires.
Alors que le porte-parole de la présidence brésilienne a annoncé hier que son pays allait acheminer de l'aide humanitaire à la frontière avec le Venezuela d'ici samedi, à la demande du chef de file de l'opposition Juan Guaido, les militaires fidèles au président Nicolas Maduro se disent déterminés à défendre l'intégrité territoriale de leur pays. Ils ne réussiront pas à nous atteindre, ils devront passer par-dessus nos cadavres d'abord, a notamment déclaré le ministre vénézuélien de la Défense. Aux États-Unis, Donald Trump a nommé hier son nouveau ministre adjoint de la Justice, Jeffrey Rosen, en remplacement de l'actuel numéro 2 du ministère, Rod Rosenstein, dont le locataire de la Maison Blanche se méfie depuis qu'il a récupéré la supervision de l'épineuse enquête sur les liens présumés entre l'équipe de campagne présidentielle de Donald Trump et la Russie. Et puis, décidément, Donald Trump semble plus que jamais sous pression après l'ouverture hier d'une autre enquête autour cette fois-ci d'un projet de transfert de technologie nucléaire vers l'Arabie Saoudite. Un rapport de la Chambre basse laisse entendre que des responsables de la Maison Blanche auraient cherché à contourner le processus décisionnel habituel dans le but d'exporter, sans l'accord du Congrès, une technologie sensible vers l'Arabie Saoudite, sans garantie par ailleurs d'un usage pacifique de cette énergie. Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman poursuit lui sa tournée asiatique destinée à montrer qu'il demeure un acteur clé sur la scène diplomatique 5 mois après l'assassinat de Jamal Khashoggi. Après un passage au Pakistan, MBS est donc arrivé hier soir en Inde, l'occasion bien sûr de discuter des relations économiques entre la monarchie pétrolière et le géant d'Asie du Sud, mais pas seulement, car la tournée de Mohamed Ben Salman dans la région survient sur fond de crise entre New Delhi et Islamabad autour d'un attentat suicide perpétré la semaine dernière dans la région himalayenne du Cachemire que les deux voisins se disputent depuis 70 ans. Ou quand MBS se retrouve donc malgré lui en drôle de faiseur de paix entre deux puissances nucléaires. Les précisions à New Delhi du correspondant de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
L'Arabie Saoudite est un des plus importants partenaires financiers du Pakistan. Riyad vient ainsi de promettre d'y investir près de 20 milliards d'euros. Et l'Inde attend donc une chose, que la nouvelle Arabie Saoudite, représentée par le prince héritier, fasse maintenant pression sur Islamabad pour arrêter les groupes terroristes pakistanais accusés de lancer des attaques au Cachemire indien. Mais Riyad aura du mal à répondre, estime Siddharth Ramana, spécialiste de sécurité à Iris Consulting.
Beaucoup de ces groupes sunnites basés au Pakistan sont également utiles pour l'Arabie Saoudite car ils créent des troubles chez son ennemi, l'Iran, et les Saoudiens et les Pakistanais collaborent aussi de manière étroite pour s'assurer que les talibans restent au pouvoir en Afghanistan. Ce que les Saoudiens peuvent faire pour l'Inde est de partager avec eux des renseignements et renvoyer des terroristes qui veulent agir contre l'Inde.
New Delhi cherche maintenant par tous les moyens à isoler Islamabad sur la scène diplomatique. Les premières réponses positives sont venus des États-Unis et surtout de la France. Paris s'est en effet engagé hier à demander au Conseil de sécurité de l'ONU de placer Massoud Azhar, le chef du groupe qui a revendiqué l'attentat de la semaine dernière, sur la liste des terroristes internationaux.
C'est le nouveau rendez-vous de la rédaction. Depuis le début de l'année, une fois par mois, nous vous proposons de nous arrêter sur un sujet touchant à l'actualité environnementale. Et aujourd'hui, direction l'île de la Réunion, à qui la nouvelle loi sur la transition énergétique de 2015 a fixé un objectif pour le moins ambitieux, devenir totalement autonome d'ici 2030, ou dit autrement, elle ne devra plus pouvoir importer d'énergie fossile qui, encore actuellement, garantissent pourtant 65% des besoins en électricité de l'île. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors la Réunion ne part pas de rien non plus, puisqu'elle produit tout de même aujourd'hui 35% de son électricité avec des énergies renouvelables. Reste que le défi de 100% de renouvelables dans un peu plus de 10 ans maintenant est un vrai défi. Et est-il tenable? Peut-être pour commencer, Véronique, pouvez-vous nous expliquer ce qui fait la particularité de la Réunion, qui de par sa situation géographique dans l'océan Indien n'est tout simplement pas interconnectée?
Voilà la différence d'un système interconnecté comme ici en métropole, où on peut exporter de l'énergie si on en a trop. On peut aussi à l'inverse importer de l'énergie de chez nos voisins en cas de pénurie. Eh bien, un système non interconnecté comme la Réunion oblige à produire la même quantité d'énergie que celle consommée. Ce vase clos, il sera d'autant plus contraignant à l'avenir que demain, bien, le réseau électrique devra intégrer des énergies renouvelables en grande quantité, des énergies dites intermittentes, comme le soleil ou l'éolien. Difficile donc d'avoir dans ces conditions une production constante avec des énergies à la production aléatoire, même si, on va le voir, ce n'est plus vraiment un problème maintenant.
Alors, atteindre l'autonomie énergétique de la Réunion en 2030, en s'appuyant notamment donc sur les énergies renouvelables, cela signifie d'abord trouver des substituts au charbon, cette énergie fossile qui est aujourd'hui importée en grande quantité, et surtout le charbon qui alimente deux grosses centrales thermiques de l'île de la Réunion.
Les centrales de Gol et du Bois Rouge, elles turbinent donc à la bagasse. C'est un déchet de la canne à sucre, mais elles turbinent surtout au charbon importé massivement d'Afrique du Sud. L'idée, eh bien, c'est de remplacer le charbon par du bois, par de la biomasse, et la gage, déchets verts. Il y a beaucoup de forêts à la Réunion. L'Office national, en tout cas, des forêts, travaille à l'émergence d'une filière bois-énergie. Elle n'existe pas. Sylvain Léonard est directeur de l'ONF à La Réunion.
La conversion de ces deux centrales bagasse-charbon à 100% biomasse.
On est décarbonisé.
Hein. On est décarbonisé. Il va y avoir besoin de 300 à 500 000 tonnes de biomasse. Ça va permettre de valoriser des sous-produits ou des coproduits à la fois de l'élagage et de la production forestière. Et puis, c'est vertueux puisque une nouvelle filière crée inévitablement des emplois. Ça va nous permettre de faire de la sylviculture, donc de mieux gérer nos forêts et avoir un débouché qui jusqu'ici n'existait pas. Il semble que l'île de la Réunion pourra produire 30% des besoins de ce combustible bois énergie. Donc 70% devra être importé.
Vous avez bien entendu, 30% de bois énergie produit sur place, 70% de plaquettes de bois importées, a priori d'Amérique du Nord, amenées donc par bateau à l'avenir. Ce n'est pas très vertueux, mais c'est le premier défi, vous dit sur place EDF SEI, SEI pour Système Énergétique Insulaire, en charge à la Réunion eh bien, d'une partie de la production d'électricité des centrales hydrauliques, surtout, et en position aussi de monopole sur la gestion du réseau électrique. Pourquoi ? Parce que ces centrales qui, demain, fonctionneront donc à la biomasse, produiront de l'électricité. On y revient de façon stable, c'est pas l'énergie que préfère EDF, qui doit faire avec ses énergies renouvelables intermittentes. La production donc aléatoire, cela vient compliquer la gestion, on comprend bien, d'un réseau électrique.
Sauf que là aussi, Véronique, les choses évoluent vite, l'intermittence n'est plus vraiment un problème, puisqu'on sait stocker aujourd'hui l'énergie produite par le renouvelable et l'injecter par exemple dans le réseau lorsque c'est nécessaire.
Alors à La Réunion, tout le monde vous parle de ce moment du pic de la marmite à riz. C'est en fin de journée quand les familles font cuire le riz. C'est la base de l'alimentation réunionnaise. Donc la consommation à ce moment-là d'électricité fait un bond et c'est là qu'on active les batteries de stockage. Obligation en tout cas de stocker pour les sociétés qui s'installent à La Réunion. C'est le cas pour la société Cadran. C'est une filiale de Total. Elle travaille en ce moment à la modernisation du premier parc éolien de l'île. Optimiser, moderniser, c'est l'autre façon aussi d'accroître la quantité d'électricité sur l'île, produire plus sur des sites déjà existants. Gaëlle Vallée est responsable du développement océan Indien de Cadran.
Et on va aujourd'hui démonter les 37 éoliennes historiques de ce site pour en installer 9, seulement 9, mais par contre 9 plus puissantes, plus grandes. On va doubler la puissance nominale du projet et quasiment tripler la production en termes de kilowattheures injectés sur le réseau. Le gestionnaire du réseau, EDF SEI, nous oblige à accompagner nos projets d'énergie renouvelable, d'accompagner ces projets avec des systèmes de stockage. Du stockage qui va permettre à la fois de réguler la production et également, surtout, de la prévoir et de pouvoir annoncer de la veille pour le lendemain ce qu'on va injecter. On n'est plus sur des systèmes dits intermittents, mais sur une énergie renouvelable prévisible.
Alors dans ce parc éolien, Véronique, ont été placés au pied donc des éoliennes des panneaux solaires. Et pourquoi ? Parce que le foncier en réalité est assez rare à La Réunion, où le parc national de l'île est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et couvre 40% de la surface de l'île.
C'est une vraie contrainte car les sites à aménager ne sont pas infinis. Chaque toit, donc chaque ombrière, comme sur des parkings sur l'île, est convoité pour y poser des panneaux solaires, sur des sites délaissés aussi, des friches. Comme dans l'enceinte d'un aéroport, c'est le cas de l'aéroport de Saint-Louis. Près de 300 000 euros de recettes pour la commune qui a accepté ces panneaux solaires. Le maire de la commune, Patrick Vallée, en demande même plus pour lui et pour la planète.
Non seulement il faut s'y mettre, réduire l'empreinte carbone, mais également peut-être changer les modes de fonctionnement dans sa vie quotidienne en termes de consommation d'électricité, peut-être construire autrement pour éviter d'avoir à climatiser les maisons, faire des économies aussi dans sa gestion quotidienne.
Vous avez des projets aussi de mettre des panneaux solaires sur les bâtiments communaux. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape après votre centrale solaire près de l'aéroport.
Voilà. Donc, mais nous sommes en attente de validation par la commission de l'énergie.
C'est compliqué tout ça ?
Ah, c'est long, hein ? C'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Bon, on va y arriver.
Voilà, lenteur, certes, à publier des appels d'offres de la part de la Commission de régulation de l'énergie, mais pour Jérôme Biret du syndicat des énergies renouvelables, lui va plus loin, alors que les représentants de l'État à La Réunion laissent penser que 100% en 2030 ce sera difficile. Eh bien, Jérôme Biret pointe surtout un manque de vision et de gouvernance collective, peut-être un peu trop de monopole, on l'écoute.
on est dans une phase qui est délicate, puisqu'on doit à la fois se projeter dans cet objectif d'autonomie, qui est un objectif ambitieux, hein, il faut le reconnaître, et on aura des difficultés, on le sait bien, puisque certaines solutions qu'on imagine aujourd'hui ne sont pas forcément opérationnelles. Donc il faut aussi construire l'innovation, il faut aussi construire tout ce qui fera demain ce nouveau régime énergétique autonome. Aujourd'hui, la phase, c'est les porteurs de projets poussent leurs idées, et donc on est dans un espèce de puzzle où chacun a une idée, et on essaye de concilier tout ça. C'est tout ça qu'il faut structurer collectivement. On ne peut pas se contenter d'une gouvernance où on fait une réunion annuelle, ça n'existe pas. C'est toute la problématique sociale, la création d'emplois, voire la destruction d'emplois, ou les reconversions, donc il faut aussi travailler là-dessus. On est aujourd'hui un peu comme sur les projets, c'est-à-dire qu'on met des petites briques côte à côte, mais sans avoir l'objectif final et sans essayer de construire ensemble la fameuse trajectoire que l'on cherche.
Et vous avez pu constater sur place, Véronique, que la Réunion est aujourd'hui un laboratoire en termes d'innovation.
Oui, il en faudra. Il y a des projets pour climatiser, par exemple, des bâtiments publics avec de l'eau de mer. Une société travaille aussi sur la mise au point d'une route solaire. C'est une version améliorée de cette fameuse route solaire inaugurée dans l'Orne par Ségolène Royal en 2015. Des panneaux solaires donc au sol, toujours plus performants. Patrick Paul Verrelli est directeur technique de Colas Océan Indien.
C'est le même procédé, c'est le même concept, c'est-à-dire d'utiliser la route comme support pour produire de l'énergie. C'est le même principe. On part du constat que la route est 90% du temps exposée au ciel. En dehors de son utilisation pour la circulation des véhicules, elle n'est utile à rien. Donc il était hors de question de ne pas lui rajouter une fonction supplémentaire et de pouvoir utiliser ce support de bonne qualité, capable de supporter des sollicitations importantes, pour lui rajouter une fonction supplémentaire, en l'occurrence de la production d'énergie.
Voilà, on aurait pu parler aussi économie d'énergie. Il en faudra pour atteindre ce 100% d'autonomie à La Réunion. En tout cas, on a des plans d'économie, de maîtrise d'énergie et des aides qui vont dans ce sens.
Merci Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot très rapide de météo. Nuageux au nord, ensoleillé au sud, les températures comprises entre 13 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.